France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire James Bulger, le meurtre qui a traumatisé l'Angleterre. Le 12 février 1993, le petit James Bulger échappe à l'attention de sa mère dans un centre commercial de Liverpool. Rapidement, la police est alertée. Pendant 2 jours, tout le pays a les yeux braqués sur des extraits de vidéosurveillance du centre commercial. 2 jours plus tard, le corps du petit garçon est retrouvé à quelques kilomètres de son lieu de disparition au bord d'une voie ferrée. Il faut encore attendre 4 jours pour que la police arrête les responsables. L'âge des meurtriers horrifie. Il s'agit de 2 petits garçons, John Venables et Robert Thompson, âgés de 10 ans. Une horreur, un traumatisme que 30 ans plus tard, outre-Manche, on n'a pas oublié. Les faits divers sont parfois insupportables de violence et de sordide. Mais ils ne sont rien d'autre que la réalité. Celle-là est paroxystique. Elle dépasse l'entendement. Ce que nous allons vous raconter est très dur, comme la vie des humains peut l'être parfois, surtout quand les inégalités sociales s'y mettent, terreau de tant de malheurs et de violence. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Fabrice Rousselot. Il était le correspondant à Londres pour le journal Libération au moment de l'affaire Bulger. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Siam Spencer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 12 février 1993, Denise Bulger, 25 ans, employée de maison, couvre chaudement son petit garçon, James. Ils quittent tous les deux leur petit appartement HLM, direction le Strand, ce centre commercial flambant neuf de Bootle, le quartier où vivent Denise, Neil et James, leur fils. Dans ce faubourg défavorisé d'une Liverpool industrielle déchue, cette hall commerciale est un véritable centre névralgique. Les jeunes s'y retrouvent, les bus y convergent, les promotions y sont sans fin. À 15h15, Denise et James Bulger entrent dans le Strand. La mère de James pousse la porte d'une boucherie et attend son tour devant le comptoir. Elle lâche la main de son fils quelques secondes, le temps de passer commande. Mais lorsqu'elle se retourne, James n'est plus là. Dans le hall, elle interroge les passants. Personne ne l'a vu. Son fils de 2 ans vient de disparaître. Elle ne le reverra jamais.
Et puis ce drame qui bouleverse toute la Grande-Bretagne. L'enfant a été enlevé dans un supermarché. Une caméra l'avait même filmé tenant la main de quelqu'un d'autre. Christian Marimono.
James, âgé de 2 ans, filmé par la caméra de surveillance. On distingue assez nettement le petit James, seul, puis tenu par la main par un jeune homme. Sa maman faisait des courses à quelques mètres. Distraite, elle ne s'est pas aperçue de sa disparition immédiatement.
Personne ne semble remarquer le petit garçon dans les allées du centre commercial, sauf les caméras qui retracent son parcours. Les premières images, pixelisées en noir et blanc, montrent d'abord l'enfant dans l'un des halls du Strand. Un autre, plus âgé, est en train de lui parler au milieu des passants. Il est 15h38. À 15h41, James apparaît sur une autre caméra. Cette fois, 2 garçons le tiennent par la main. À 15h42, ils sortent du centre commercial. Puis, plus de traces de James sur les bandes de vidéosurveillance. En 4 minutes, James a disparu, pour de bon cette fois. La police arrive rapidement sur place, rejointe vers 17h par les journalistes locaux. Le lendemain, dans la matinée, les parents de James Bulger donnent leur première conférence de presse. Les traits tirés, la voix tremblante, les yeux rougis, Denise lance un appel à témoins. À ce stade, la police recherche des adolescents, ceux qui tiennent James par la main sur la vidéosurveillance. Les images, de mauvaise qualité, ne permettent pas d'identifier les 2 inconnus, ni leur âge exact. Mais ce dont on est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'adultes. 2 jours plus tard, le 14 février, le corps de James est retrouvé. Ce sont des gamins habitués à jouer le long de la voie ferrée qui découvrent le petit garçon inanimé. Du moins, ce qu'il en reste. Le bébé de 2 ans est nu. Abandonné au bord d'une voie ferrée, il a été battu et abattu à coups de barre de fer et de briques. Les médecins légistes comptent 42 coups, dont une dizaine à la tête. Détail encore plus atroce. Son corps était coupé en deux post-mortem par le passage d'un train.
Ce meurtre a suscité une immense émotion en Grande-Bretagne. Les parents ont reçu d'innombrables messages de sympathie. Nounours, jouets, bouquets de fleurs se sont accumulés près de l'endroit où était retrouvé le corps de l'enfant, celui de James.
Liverpool est sous le choc, comme le pays tout entier. Par centaines, on se recueille là où le petit corps a été retrouvé. Des mères de famille traînent leurs enfants qui braillent dans le froid glacial de ce mois de février anglais. On pleure sans retenue la perte du petit garçon. On s'imagine que ça aurait pu être nous, notre enfant. Un drame comme celui de Bulger, c'est tout ce que le hasard peut faire de pire. Car pendant ce temps, au commissariat de police, les officiers croulent sous les appels de citoyens désireux d'aider. Mais les pistes s'accumulent sans qu'on trouve les véritables meurtriers. La police ne lésine pourtant pas sur les efforts. Dès le lendemain de la disparition, elle a déjà interrogé plus d'une vingtaine d'adolescents. Partout à Liverpool, avec les heures qui passent, le choc et la tristesse se transforment en rage. Oui, une rage née dans l'incompréhension, dans l'horreur, celle qui s'abat sur la ville, qui a besoin d'un coupable. D'abord, on chuchote. Quel démon a bien pu faire cela à un enfant de 2 ans? Mais lorsque les officiers vont chercher leur premier suspect, 4 jours plus tard, l'heure n'est plus à la discussion. C'est une véritable émeute. Des voisins se jettent sur la voiture de police pour en extraire le coupable. On va lui faire la peau à celui qui a fait ça au petit James. Le sang, appelle le sang. Pourtant, ce n'est pas ce sang-là que cherchent les Scousers, comme on appelle les habitants de Liverpool, non. Le jeune homme arrêté est innocent. Même si face à la pression et aux menaces du voisinage, il devra déménager avec sa famille, non. La véritable identité des meurtriers du petit James ajoute encore un cran à l'horreur.
Pourquoi ? La question est à la une de toute la presse britannique ce matin. Après 3 jours d'enquête, les images vidéo du centre commercial Strand de la banlieue de Liverpool ont livré leur terrible secret. Grâce à des techniques d'agrandissement utilisées pendant la guerre du Golfe, les enquêteurs ont pu identifier formellement les 2 enfants qui ont enlevé le petit James, 2 garçons de 10 ans. Comment 2 garçons de 10 ans ont-ils pu enlever, torturer et assassiner un môme de 2 ans ? Comment et pourquoi ?
Comment et pourquoi ? Sidération des enquêteurs qui arrêtent les 2 garçons à leur domicile le 18 février, 6 jours après le meurtre. Quand l'agent David Tanner est envoyé pour arrêter John Van Abels, il est plus que surpris par la silhouette menue et enfantine qui lui fait face. Le petit garçon est en pyjama. Il ouvre la porte et fixe le policier de ses grands yeux marrons. Des cheveux châtains encadrent ses joues roses et rebondis. Les policiers interpellent le petit Robert Thompson dans la foulée. L'après-midi et les 2 jours qui suivent, chacun des 2 garçons est interrogé 3 ou 4 fois pendant 40 minutes. Leurs familles sont là pour les rassurer. Mais imaginons un seul instant ce que doivent vivre les parents des 2 gamins. Les questions terribles qu'ils doivent se poser. Des psychologues assistent aux interrogatoires et les policiers, très attentifs aux 2 garçons, se répètent avant chaque entrevue à quel point il est important d'être précautionneux pour ne pas brusquer les enfants, réussir à les faire parler. 2 enfants, 6 jeunes, non. Personne n'y croit. Pas même le commissaire Kirby, en charge de l'enquête. Ce soir-là, sur le plateau de télévision de la célèbre émission Crime Watch, il affirme être toujours à la recherche des coupables et 2 témoins. Pourtant, John Van Abels et Robert Thompson passent aux aveux. C'est John qui craque le premier. Puis vient le tour de Robert, qui, confronté aux aveux de John, craque à son tour.
L'un des assassins présumés du petit James est ce gosse qui le tient par la main et qui s'en va avec lui. L'autre est un de ses copains. À eux deux, ils n'ont pas plus de 20 ans. Hier soir, les 2 petits assassins ont été officiellement accusés du meurtre de James Bulger par la justice de Liverpool au terme de 3 jours d'interrogatoire particulièrement délicat mené par des policiers et des psychologues. Tout cela dans 2 commissariats différents pour éviter les manifestations de violence et de haine.
Sur les bandes audio des aveux, de leur voix fluette, légère, presque plus enfantine que leur âge, ils racontent comment, le 12 février, ils ont commencé par faire l'école buissonnière pour aller au centre commercial. Là-bas, ils volent des piles, retrouvées d'ailleurs près du corps de James. Puis, ils cherchent à kidnapper un enfant. Leur première tentative sur un petit garçon de 2 ans est un échec. Puis, ils tombent sur James, réussissent à l'éloigner de sa mère et l'enlèvent. Une fois sortis du centre commercial, ils marchent. John et Robert hésitent à plusieurs reprises. Jeter l'enfant sous un bus, essayer de le noyer. Et chaque fois, la présence d'un témoin ou d'un passant les en empêche. Alors ils marchent, marchent et marchent encore, pendant 4 kilomètres. Ce n'est pas rien pour des enfants de cet âge, encore moins pour un bébé de 2 ans. La mortelle randonnée des enfants meurtriers dure 3 heures. À leur passage, des adultes s'interrogent tout de même. Que font ces deux garçons avec un bébé en pleurs? Mais les ravisseurs en culotte courte ont réponse à tout. Il est tombé d'un arbre, on le ramène chez ses parents. Ou encore, c'est mon petit frère, on rentre à la maison. John et Robert se perdent un moment, puis ils trouvent leur chemin pour aller à la voie ferrée, où ils ont l'habitude de jouer ensemble lorsqu'ils font l'école buissonnière. Là-bas, ils battent l'enfant si fort qu'en repartant, ils prennent soin de déposer de petites briques rouges sur sa tête pour éviter de voir le sang couler. L'un d'eux se retourne une dernière fois avant de quitter le chemin de fer, le petit garçon bouge encore un peu. Ce drame, pour le coup vraiment hors norme, traverse la Manche. En France, on s'interroge bien sûr sur les raisons de ce passage à l'acte. Sur le plateau télé de France 2, on invite le psychiatre Yves Roujamon.
Dans le cas des deux enfants de Liverpool, qu'est-ce qui a pu entraîner, disons, le passage à l'acte? On dit qu'ils ont eu une enfance malheureuse, mais l'explication est un peu courte.
Il y a des quantités d'autres raisons probables, mais le plus souvent sur ces meurtres précoces, c'est le signe du début d'un trouble mental.
Et les enfants avaient conscience de la gravité du crime qu'ils commettaient?
C'est pas, vous savez, une conscience d'enfant de 13 ans, c'est pas une conscience d'adulte. Hein. Il y a, ça paraît horrible, mais il y a une espèce de part de, à la fois de jeu, d'activité, de force à montrer. Enfin,
ce sont des crimes absurdes, il n'y a pas de motivation.
Voilà.
Un crime sans motivation et que les deux garçons veulent garder secret. Le jour du meurtre, Suzanne Van Abels, la mère de John, s'occupe de ses enfants, chez elle. Elle retrouve son fils et Robert aux alentours de 19h30, dans une boutique de cassettes vidéo. Les garçons sont sales. Leurs mains et leurs vêtements sont recouverts de boue et de peinture. Alors Suzanne est furieuse. Son fils a encore manqué l'école avec ce foutu Robert qui rentre chez lui en courant. Il raconte à sa mère, Anne Thompson, que Suzanne, la mère de son copain, l'a frappé. Et il a une preuve, une éraflure. Faite en réalité plus tôt, le long de la voie ferrée. Sa mère l'emmène au commissariat pour porter plainte, mais la police la rabroue. Suzanne, mère de John, traîne aussi son fils au commissariat ce soir-là. Elle veut lui faire peur en le faisant gronder par un policier pour avoir manqué l'école. L'ironie du sort veut donc que les deux garçons aient fait une apparition au commissariat de Walton dans les heures qui suivent le meurtre du petit James. Début mars. La colère laisse place, le temps d'une journée, au recueillement. Aux obsèques de James Bulger, 500 personnes se serrent dans la petite église du Sacré-Cœur de Kirkby, banlieue pauvre et triste de Liverpool.
Liverpool, ville martyre. Par centaines, chaque jour, des amis, des inconnus, se recueillent près de l'endroit où le corps était retrouvé. Émotion, mais aussi colère contre les deux criminels en culotte courte.
Si j'avais un fils qui avait fait ça, je le pendrais moi-même. Les deux petits ne devraient jamais être libérés.
À quelques mètres, habitait un des assassins présumés, Robert. Sa mère, ses frères et sœurs ont été contraints de déménager, maison murée. Malgré le silence imposé par la police, un voisin révolté raconte. Ma femme l'a vu le jour avant son arrestation, il jouait dans le jardin comme si de rien n'était. La maison de John, le deuxième accusé, sa famille a été contrainte également de quitter le quartier.
Dehors, dans un froid glacial, ils sont des milliers à suivre la cérémonie. Les femmes, nombreuses, pleurent à chaudes larmes et sans retenue, accompagnées de leurs enfants. Le convoi funéraire avance le long de la route qui mène à l'église. Derrière lui, 4 limousines roulent, emplies de fleurs blanches. Devant l'église, 4 porteurs glissent solennellement le petit cercueil blanc hors du convoi.
Underground, I won't let it.
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le meurtre du petit James Bulger.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Deux garçons de 11 ans comparaissent aujourd'hui devant un jury populaire. Ils sont accusés du rapt et du meurtre d'un enfant de 2 ans. Le drame avait bouleversé le pays, souvenez-vous, et la ville de Liverpool, Maryse Burgot.
Deux fourgons presque banals et quelques photographes pour tenter de saisir les visages des enfants tueurs. À l'intérieur, deux mineurs, ils ont 11 ans, et pendant près de 2 semaines, ils vont comparaître devant les juges de Preston pour rapt et meurtre, et chaque jour, ils seront à l'audience. Et ils devront raconter l'incroyable. Un enfant sauvagement assassiné par 2 autres enfants. Comment expliquer, comment comprendre et surtout, quelle réponse la justice peut-elle apporter ? Bien sûr, pendant le procès, on entendra surtout des experts psychiatres. Les enfants étaient-ils oui ou non responsables de leurs actes au moment des faits ? Ont-ils agi en comprenant la gravité de leurs crimes ?
8 mois plus tard, la foule a disparu pour l'ouverture du procès de Robert Thompson et John Venables, appelés sobrement Boy A et Boy B, pour préserver ce qui reste de leur anonymat. Mais qu'on ne s'y trompe pas, s'il y a peu de monde pour le procès, ce n'est pas parce que les Anglais ont perdu leur intérêt pour l'affaire. Au contraire, si le procès a lieu à 60 kilomètres de Liverpool, c'est justement pour éviter les débordements, dans un climat de lynchage ambiant encore à son paroxysme. C'est donc au tribunal de Preston que le procès des meurtriers de James Bulger s'ouvre le 24 novembre 1993. John Venables et Robert Thompson entrent dans la salle numéro 1 de la Cour de justice à 10h30, habillés comme un dimanche. Ils ont eu tous les deux 11 ans au mois d'août, mais restent des enfants. Encore trop petits, il faut rehausser les chaises en cuir de la cour pour leur permettre d'apercevoir le juge.
Les premiers jours du procès ont tourné autour de la personnalité des deux enfants meurtriers. Christian-Marie Monod.
Les deux jeunes garçons âgés de 11 ans se rejettent la responsabilité et ont donné à la police des versions différentes. Un journaliste a observé l'attitude des deux garçons pendant ces 3 premiers jours de procès.
Les enfants ont beaucoup changé depuis lundi. Aujourd'hui, au moment de la présentation des preuves accablantes concernant l'attaque de James, un des enfants a pleuré et a essuyé ses larmes avec un mouchoir. Il a posé sa tête sur l'épaule de son assistante sociale.
Pendant les longues journées d'audience, John bouge peu. Il jette de temps en temps un coup d'œil à ses parents. On le voit parfois jouer avec des mouchoirs en papier que les travailleurs sociaux qui l'accompagnent tiennent à sa disposition. Alors il les plie, les déchire, crée des figures. Si John s'émeut souvent, Robert lui semble ne rien éprouver. Ses mains sont agitées tout de même, mais sur son visage, c'est le néant. Il se livre lui aussi à des découpages de mouchoirs. Il met ses doigts dans sa bouche, dans son oreille, se lèche les doigts avant de les essuyer sur son pantalon. Parfois, les deux petits garçons se regardent. Ils semblent se sourire. Pendant le procès, on tente assez peu d'entrer dans le détail de l'enfance, voire pas du tout. Non, c'est seulement plusieurs mois plus tard que la journaliste Chita Sereni essaie d'apporter du contexte au meurtre inexplicable de James. Elle retrace l'enfance des petits assassins, puis leur rencontre en septembre 92, alors qu'ils sont tous les deux élèves à l'école St. Mary à Walton. John vient de redoubler. Robert lui accumule les absences. 86 sans justification entre septembre 92 et février 93. En toile de fond de cette rencontre, Liverpool, la maudite, où la précarité rafle les existences sur fond d'alcoolisme de foyer pour adolescents turbulents.
Good morning from London. Quelqu'un doit être responsable et ça pourrait bien être notre faute à tous. Le journal britannique The Independent a encore consacré hier 5 pleines pages à se demander comment la société anglaise a pu engendrer 2 assassins âgés de 10 ans seulement. Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr, mais au-delà de l'augmentation de la criminalité ou de l'éclatement des familles, ce journal sérieux et qui mérite bien son nom épingle notamment l'individualisme suprême du thatchérisme, l'absence actuelle d'espoir ou d'idéal, et aussi la morale et les valeurs sociales qui foutent le camp. Et puis il y a Liverpool, dont les habitants, quand ils prennent le ferryboat pour traverser la ville, parlent de cette nouvelle honte, l'assassinat d'un bébé qui s'est abattu sur leur cité. D'une tragédie si particulière et personnelle, ils en ont fait leur fardeau. Ce port, jadis si riche du temps de l'émigration européenne vers les États-Unis, a vu le commerce se rabougrir. Et seuls les vieux pubs ont encore du lustre. Aujourd'hui, chômage et délinquance font des ravages.
Les familles de John et Robert sont à l'image de celles qu'on trouve dans cette banlieue pauvre et sans vie de Liverpool, brisées par la pauvreté en effet, mais qui tentent de préserver une forme de dignité. Anne Thompson, la mère de Robert, y passe toute sa vie. Elle est battue par son père de la naissance jusqu'au mariage, le jour de ses 18 ans. Elle troque alors un père violent et alcoolique pour un mari simplement alcoolique, une forme de promotion pour l'épouse Scousers de l'époque. Elle a 6 enfants, qu'elle enchaîne dans l'espoir d'avoir une fille. Puis le père de Robert la trompe avec une amie et la quitte. Dans la foulée de la séparation, la maison familiale prend l'eau. C'est la dégringolade pour Anne Thompson. Elle sombre dans l'alcoolisme pendant que ses aînés martyrisent les plus jeunes, dont Robert. Incapable de s'occuper de la fratrie, elle place volontairement plusieurs de ses fils dans des foyers ou des familles d'accueil. John Van Abels, lui, est le second d'une fratrie de 3. Son grand frère et sa petite sœur souffrent tous deux d'un retard mental. À la maison, sa mère, Suzanne Van Abels, sur qui toute la charge du foyer repose, est complètement dépassée. Un an après la naissance de John, elle se sépare de son mari, Neil Van Abels. Si en réalité ils continuent de se fréquenter, c'est Suzanne qui s'occupe des enfants. Après un déménagement, John est victime de harcèlement par des enfants voisins. À l'école, il a un comportement que ses institutrices successives qualifient d'étrange, voire insupportable. Il se balance sur sa chaise, pousse des gémissements, jette des objets, plonge dans des colères folles, se cogne la tête jusqu'à se blesser. Suzanne Van Abels finit par demander de l'aide. Un assistant social prendra en charge ses enfants un week-end par mois pour qu'elle puisse souffler.
Madame, monsieur, bonsoir. Au procès de Preston, en Angleterre, les deux enfants qui avaient torturé et tué le petit James, âgé alors de 2 ans, ont été reconnus coupables d'enlèvement et de meurtre. Ces deux enfants, qui avaient 10 ans à l'âge des faits, au moment des faits, ont tous deux été condamnés à la détention pour un temps illimité. Christian Marimono.
Après avoir délibéré toute l'après-midi, le jury, à l'unanimité, a estimé que les deux jeunes meurtriers, Robert et John, étaient tous les deux coupables de l'enlèvement et de l'assassinat du petit James. Ils sont condamnés à la prison à vie, selon la volonté de la reine, ce qui signifie qu'ils pourraient être libérés dans 12 ou 15 ans. John, qui a avoué, s'est effondré en larmes. Robert n'a montré aucune émotion. Les parents de la petite victime étaient présents au tribunal. Difficile de traduire leurs sentiments ce soir.
Dès le lendemain, leurs photos font la une de tous les journaux. Ce sont les plus jeunes condamnés pour meurtre que la justice anglaise ait jamais connus. Les enfants sont condamnés à la prison jusqu'à leur majorité. Des années de détention qui ne seront pas réellement de la prison, mais plutôt des maisons de correction pour adolescents, où on leur donne de nouvelles identités pour se protéger. Mais les débats autour du temps de détention des deux meurtriers durent des années. Cette peine, jugée trop faible par les parents de la victime, est finalement portée à 10 ans en appel. Puis, comme le droit anglais leur en donne la possibilité, en dernier recours, les deux jeunes garçons subissent une nouvelle augmentation de leur sentence à 15 ans. C'est la peine minimale décidée par le ministre de l'Intérieur britannique d'alors, suite à une pétition nationale signée par près de 300 000 personnes. La décision est finalement cassée en 1997 par les Lords de la justice anglaise. Les garçons sont alors emprisonnés pour une durée indéterminée. Oui, à l'appréciation de Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Rien que ça. Il se trouve qu'au Royaume-Uni, la loi veut qu'à partir de 10 ans, un enfant est tenu pour responsable de ses actes devant la justice. Il peut donc être jugé et en cours jusqu'à la perpétuité, comme un adulte. Le principe est simple, on estime que les enfants, à partir de 10 ans, sont capables de distinguer le bien du mal. En 1999, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la justice anglaise pour l'emprisonnement indéterminé de 2 mineurs. La peine est alors réduite à son temps initial, 8 ans. Les deux garçons sont finalement libérés en 2001 à leur majorité.
Crime prémédité. Dans un climat de traumatisme national, les deux meurtriers seront condamnés à la prison à vie. Alors, évidemment, quand hier, Lord Harry Wolfe, le juge suprême de la Haute Cour de Londres, a annoncé à la mère du petit garçon assassiné que la peine de prison incompressible que purgeaient les meurtriers était terminée, le cœur de l'Angleterre s'est à nouveau soulevé. Pour les avocats des deux adolescents âgés aujourd'hui de 18 ans, cette décision difficile était pourtant nécessaire.
Leur crime est terrible, mais ce n'étaient que des enfants. Ils n'avaient que 10 ans et étaient à peine responsables devant la loi lorsque c'est arrivé. Je crois qu'il faut prendre en compte les progrès soutenus qu'ils ont faits depuis.
Sur la détention de John Van Abels et Robert Thompson, on sait peu de choses. Ils ne sont pas incarcérés au même endroit. Ils sont très surveillés, soumis pendant 8 ans à des rapports quotidiens sur leur comportement, dont les copies d'ailleurs sont directement envoyées à Whitehall, le ministère de l'Intérieur britannique. Il semblerait néanmoins que l'un et l'autre poursuivent leur scolarité dans une atmosphère malgré tout bienveillante. On sait par l'assistant social de Robert Thompson qu'il était un enfant attachant, même si assez mutique, et qui s'est révélé futé et sûr de lui. Il évite les bagarres et sait se faire apprécier des adultes. Et il finit par obtenir de petits avantages, le droit de se coucher plus tard, de regarder la télé plus longtemps. Il dessine beaucoup, se découvre une passion pour la mode. Alors qu'ils ont 14 ans, des sorties sont autorisées en compagnie d'éducateurs. Ils vont au théâtre, dépensent la 60aine de livres par mois qui leur est allouée, auxquels s'ajoutent 25 livres à chacun de leurs anniversaires. Ces détails sont insupportables pour Denise Bulger et pour une partie de l'opinion publique. Avoir tué James, relève la mère, leur aura permis d'accéder à une éducation à laquelle ils n'auraient probablement pas pu prétendre sans cela, et dont les autres enfants de Liverpool sont privés. Dans la ville du drame, rien de tel pour irriter les habitants. Qu'on traite ses enfants comme des princes pendant 8 ans, quand les autres n'auront jamais pareille chance. Une prime à l'assassinat, en quelque sorte. Et de surcroît, ils n'iront pas dans une vraie prison, non, juste en centre de redressement. Et ça, c'en est trop pour Denise Bulger.
J'aurais accepté 15 ou 20 ans. J'aurais pu vivre avec ça, en sachant qu'un jour lointain, ils allaient être libérés. Mais après 8 ans, c'est beaucoup trop tôt pour ce qu'ils ont fait.
Des libertés conditionnelles, évidemment. Les deux garçons âgés aujourd'hui de 18 ans pourront être reconduits en prison au moindre problème avec la justice.
À leur libération, le 22 juin 2001, ils sont soumis à des conditions strictes. Interdiction de quitter la Grande-Bretagne, interdiction de revenir dans le comté de Liverpool, interdiction d'entrer en contact avec la famille de James Bulger. On leur fournit de nouvelles identités, tout comme à leur famille, afin de les protéger des représailles, bien sûr. Mais à leur libération, toute l'Angleterre, les tabloïds en tête et vengeresse. À leur sortie de prison, c'est donc une chasse à l'homme, à peine déguisée, qui s'enclenche et se cristallise par les paroles glaçantes de Denise Bulger dans la presse britannique.
Quel que soit l'endroit où ils iront, ils seront reconnus. Alors à tous ceux qui m'écoutent, je leur donne un conseil. Ne les tuez pas. Dites-leur seulement que nous serons toujours là, à les attendre. Je ne vais pas courir après eux. Mais s'il leur arrive quoi que ce soit, je ne pourrai pas l'empêcher. Et je ne verserai pas une larme.
Les années passent et la plaie semble se refermer dans le cœur des Anglais. Mais alors que Robert Thompson semble s'être totalement évaporé dans la nature, John Van Abels refait parler de lui. Le 5 mars 2010, 9 ans après sa libération, il est de nouveau incarcéré.
Êtes-vous John Van Abels ?
Oui.
La voix grave qui résonne dans la chambre de la haute cour criminelle sort d'un écran d'ordinateur que seul le juge est autorisé à regarder. Le jeune homme de 27 ans qui comparait en visioconférence depuis sa prison est aujourd'hui jugé pour détention d'images pédophiles.
C'est l'officier de probation de John qui découvre les images pédopornographiques. Au cours d'une de ses visites, il se rend compte que le garçon se fait passer pour femme au foyer de 35 ans, censé maltraiter sa fille et l'offrir en échange de fichiers pédocriminels. Fichiers qui s'accumulent alors sur son ordinateur. L'affaire choque profondément, là encore. Lui, qui lors du procès avait semblé être le moins coupable de deux, apparaît maintenant comme un pervers, irrécupérable. En juillet de la même année, il est condamné à 2 ans de prison. On se demande alors si l'anonymat sera levé au vu de la condamnation. Et la presse s'emballe, l'opinion publique également.
Une protection que le juge va peut-être lever aujourd'hui, c'est ce que souhaite la mère de la victime, toujours révoltée, 17 ans après les faits. Depuis que John Venables est sorti de prison, j'ai toujours dit qu'il n'était pas clair. Il n'a jamais demandé pardon pour la mort de mon fils. L'opinion et la presse anglaise sont suspendues à la décision de la cour de Old Bailey, et particulièrement les tabloïds qui rêvent de diffuser la photo du jeune homme pour alimenter la chasse à l'homme qu'ils ont déjà lancée, n'hésitant pas à le comparer à Jacques l'Éventreur ou au diable.
In fine, l'anonymat ne sera pas levé. Et John Venables est de nouveau incarcéré en 2017, toujours pour possession d'images pédopornographiques. Il est aujourd'hui toujours en prison. Tandis que Robert Thompson, lui, semble avoir réussi à faire sa vie, loin des radars de l'opinion publique. L'affaire James Bulger est l'une des plus retentissantes de ces 50 dernières années, outre-Manche, évidemment. Elle continue d'intriguer, d'obséder l'opinion publique. À l'image de l'affaire du petit Grégory, chez nous, en France. Plus profondément encore, elle ne cesse de relancer les débats sur la lutte contre la délinquance juvénile en Grande-Bretagne. Alternance entre méthodes dures, incarcération en maison de correction et méthodes plus douces avec des centres d'éducation. Des débats qui ne sont pas sans rappeler ceux qui secouent la France 30 ans plus tard.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le meurtre du petit James Bulger. Notre invité Fabrice Rousselot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous étiez correspondant à Londres pour Libé quand le petit James Bulger a été tué. Alors nous sommes journalistes, nous n'en sommes pas moins des humains. Qu'est-ce que ça implique humainement de s'approcher d'une telle réalité? Quel souvenir vous en gardez?
J'en garde un souvenir d'un reportage que j'ai fait avec une certaine appréhension. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais jeune père, j'avais une petite fille et j'attendais un petit garçon. Je me souviens d'être parti, encore une fois, pas de la réticence professionnelle, mais de l'appréhension justement humaine face à cette affaire, parce que le choc était énorme. Le peu de détails qu'on avait était suffisant pour comprendre que ça avait été un meurtre horrible. Je me souviens d'être parti comme ça, un peu angoissé, et d'être arrivé là-bas et d'avoir eu un second choc qui était un peu le choc, j'allais dire, de la déshérence de ces quartiers nord de Liverpool. Et j'étais en plus accompagné d'un photographe qui était de Liverpool, donc qui m'a permis justement d'aller voir pas mal de gens et de rencontrer pas mal de gens pendant ce reportage. Mais à l'époque, il faut bien comprendre que l'Angleterre de John Major, il y avait une paupérisation en Angleterre qui était absolument extraordinaire. On ne voyait pas ça en France. On pouvait voir partout en Angleterre, une grande pauvreté. Et là, c'est comme si c'était un concentré de pauvreté à Liverpool, avec à la fois une ambiance qu'on peut imaginer de février, il pleut, il fait froid, et des gens qui sont pas bien, qui se sentent abandonnés, qui rejettent tout ce qui vient du gouvernement, des gamins qui traînent dans les rues jusqu'à pas d'heure, qui ont pas de dents pour certains, ou qui ont des dents. On a un peu l'impression d'être presque un siècle en avant, et des gamins surtout qui n'ont pas beaucoup de, qui répondent pas à grand chose, si ce n'est à leur propre vantardise. Je me souviens d'échanges avec des gamins de 12-13 ans qui me demandaient ce que j'étais là, si j'étais un flic, me demandaient de partir. Un autre qui m'a proposé de vendre sa voiture, qu'il avait acheté 30 livres. Enfin, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que c'était quand même, je suis resté 4-5 jours pour faire ce premier reportage et ça a été un grand choc, d'être confronté à cet environnement-là, qui était loin d'être celui de Londres, même si à Londres, il y a des quartiers aussi compliqué, mais Liverpool, c'était la première fois que j'allais à Liverpool dans ces conditions-là, et ça a été un petit traumatisme.
Donc on est bien d'accord, c'est un drame de la pauvreté, aussi.
Alors, c'est un drame de la pauvreté.
Aussi, j'ai bien dit aussi, ça n'explique pas tout, évidemment.
Voilà, aussi, moi je me souviens avoir pris beaucoup de précautions dans mes reportages, puis dans les textes qu'on a fait après, puisque je me suis retrouvé également au procès, au
verdict, etc. Oui, on en parlera.
Etc., voilà. Et j'ai beaucoup fait attention à ne jamais donner d'éléments probant sur le pourquoi. J'y suis allé pour donner du contexte, c'est-à-dire essayer de comprendre certains éléments. Après, il suffisait, ce que j'ai fait à l'époque, d'aller voir les gens qui se spécialisaient sur les enfants, sur la délinquance juvénile, pour comprendre que ce genre de meurtre comme ça, si violent, on n'arrivera jamais vraiment à comprendre pourquoi. Vous l'avez évoqué dans votre récit, on a découvert des années après ces tendances pédophiles de John Venables. Donc, c'est un élément qui vient s'ajouter. Est-ce qu'il y a une réponse au meurtre de James Bulger? Il n'y en a pas qu'une. Elles sont multiples. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on saura jamais pourquoi? Non, il y a certainement un élément d'irrationnel là-dedans. Il y a des pulsions. Je ne veux pas revenir sur les détails du meurtre, mais c'est un meurtre horrible qui a duré plusieurs minutes, où ils se sont acharnés sur cet enfant.
C'est un bébé, même 2 ans. Bébé,
voilà, 2 ans et demi. Il y avait beaucoup de culpabilité à Liverpool, parce que il faut bien savoir que sur ce fameux chemin qu'ils ont emprunté entre The Strand et donc la voie ferrée, il y a à peu près 5 kilomètres, plus d'une trentaine de personnes ont vu ces deux gamins, j'allais dire, avec ce bébé.
Ouais, c'est suspect, pourtant.
Voilà, c'était suspect. Alors, ils ont donné des réponses. À une certaine fois, ils ont même demandé où était le commissariat, pourquoi on l'amène, on l'a trouvé. Donc, il y avait quand même un élément où... ça pour eux, si c'était un jeu, ou je ne sais pas comment ils l'abordaient, mais en tout cas, ils étaient suffisamment alertes pour pouvoir répondre aux gens qui s'interrogeaient. Puis il y a ceux qui ont vu qui n'ont rien dit. Moi, j'ai commencé mon reportage à Liverpool par ce vieux monsieur qui va dans le cimetière, qui est un cimetière un peu abandonné dans une église, et les enfants sont passés par ce chemin-là. Et lui avait l'habitude de sortir tous les jours vers 16h45, 17h. Dans ce cimetière, et ce jour-là, elle n'est pas sortie, et elle regrettait, elle disait peut-être que j'aurais pu les arrêter, peut-être que j'aurais compris quelque chose. Donc il y avait à la fois ce sentiment de culpabilité, il y avait cette vision d'une Liverpool déshéritée qui ne croit plus en grand-chose, avec beaucoup de violence. Ce que vous avez dit, par exemple, les frères de Robert Thompson, tous avaient été inculpés à un moment ou à un autre pour violence, pour délit. Donc ça, ce sont des éléments de contexte. Ouais. Encore une fois, la question pourquoi... je ne crois pas qu'on aura toutes les réponses, mais le contexte permet de mieux appréhender ce qui s'est passé. Je me souviens d'une psychologue, et notamment quelqu'un qui travaillait avec les mères monoparentales, puisqu'il y avait beaucoup de familles monoparentales à Liverpool, et qui disait, l'une des difficultés que j'ai moi avec les gamins, quand je les vois comme ça dans ces familles-là, c'est qu'ils n'ont plus de repères.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et donc là, voilà. Donc, encore une fois, ce sont des éléments qui permettent de mieux appréhender. Est-ce que ce sont des éléments qui permettent d'expliquer? Je suis pas certain.
Bien sûr.
France Inter. Affaires sensibles.
Fabrice Rousselot, on imagine l'abomination pour les parents du bébé tué. Énormes difficultés, souffrance aussi, on imagine, pour les parents des petits assassins. Vous les avez approchés, vous les avez vus, les parents, des deux côtés?
J'ai essayé, mais c'était absolument pas possible. Notamment, moi, j'y suis allé à peu près 15 jours après les faits. Donc, je me suis approché de la maison, puisque à l'époque, il n'y avait pas encore les identités qui avaient été révélées, mais les voisins s'étaient rendus compte des allées et venues de la police. Donc, ils avaient fait déménager les deux familles, même. Elles avaient déjà disparu. Donc, je me suis approché de la maison, je me suis approché de voisins, donc d'anciens voisins. Mais la famille elle-même les familles elles-mêmes étaient absolument impossibles à joindre. Il y a eu quand même cette espèce de stupéfaction, moi je m'en souviens très bien, même dans les premiers jours, où même les policiers ne pensaient pas que c'était des enfants aussi jeunes. C'est-à-dire que même avec les images...
Mais on l'a dit, ils n'y croyaient pas. Voilà,
avec les images des caméras vidéo, au début ils pensaient que c'était des adolescents de 15, 16, 17 ans.
Ouais.
Et ça a été une stupeur complète. Il a fallu, en plus des caméras vidéo, le témoignage d'une voisine que j'ai rencontrée, qui a dit aux policiers, moi j'ai reconnu John Venables et Robert Thompson. Et c'est comme ça aussi qu'ils sont allés les chercher. Donc, et même quand ils sont allés les chercher, ils n'y croyaient toujours pas. Donc il y avait tous ces éléments-là qui font que... Et il y avait aussi, je disais tout à l'heure, il y avait le choc, il y avait ce sentiment d'être abandonné, mais il y avait une énorme colère. Il y avait une énorme colère dans ce quartier, à la fois des anciens voisins, des parents qui ont parlé alors après, mais par presse interposée. Et puis... faut pas oublier non plus que l'Angleterre est le pays des tabloïds quand même. Donc moi je me souviens de la couverture des tabloïds qui était outrancière, lamentable, qui appelait au lynchage, avec à chaque fois la photo de ce gamin aux yeux immenses comme ça en une. Je dis toujours en Grande-Bretagne l'affaire James Bulger, elle a le même retentissement que l'affaire Maddie. Vous savez de cette petite fille qui a disparu au Portugal et qui continue.
Raconté, puisque, d'ailleurs.
Voilà. Et d'une certaine manière, les deux enfants se ressemblaient, ils avaient des... Et c'est vrai que les tabloïds, pendant des mois et des mois, ont mis de l'huile sur le feu, ont questionné le système. Alors, il y avait des interrogations sur le système britannique, hein, à la fois sur cette spécificité britannique qui veut qu'on estime que les enfants de 10 ans sont jugés responsables donc de leurs actes devant la loi. Vous savez qu'en Europe, c'est généralement plus tard, en France, c'est 13 ans, en Grande-Bretagne, c'était 10 ans. Mais après, il y avait un débat sur quel genre d'institution, il n'y avait pas assez d'institutions, ou alors des institutions qui quelquefois ressemblaient plus à des maisons éducatives, et vous l'avez raconté. Donc il y avait tous ces débats-là qui venaient sur le devant de la scène, et puis cet effroi qui ne quittait pas les Anglais. Hein. Cette affaire a duré mais des mois et des mois.
Oui, parce que le meurtre d'un enfant, c'est la transgression ultime, c'est la raison pour laquelle l'affaire Grégory en France est souvent considérée comme la plus retentissante de l'après-guerre jusqu'aux années 2000, disons. Là, on a la mort d'un enfant par d'autres enfants. C'est complètement fou.
Le meurtre d'un enfant par des enfants, je vois pas ce qu'il y a de pire, d'une certaine manière. C'est que, parce qu'en plus, on n'a pas tous les éléments de compréhension. Meurtre d'enfants par des adultes, on n'a pas forcément tous les éléments de compréhension, mais en tout cas, on est une personne adulte qui répond. Donc, il dit ce qu'il veut, ce qu'il dit pas. Là, on avait des enfants dont certains experts ont estimé qu'ils n'avaient pas, justement, cette conscience du bien ou du mal. Qui, pour certains, disaient, mais il y a une part d'éléments de jeu, et ça semblait horrible, qu'il y a une part de jeu dans ce qui a été fait. Hein. C'est quand même... Le pauvre James a reçu de nombreux coups. Il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont même pas été révélées par la police.
Est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles ?
Il y a eu des... Voilà, il y a des choses qui ont circulé après, notamment avec les piles qu'ils avaient... Ils avaient volé des piles et de la peinture, hein, donc avant de kidnapper James Bulger. L'enfant était couvert de peinture. Il y a eu plein de choses qui sont sorties au fur et à mesure où on a l'impression qu'il y a eu en effet un peu plus encore que cette horreur qu'on a découvert. Et donc... Ce sont des histoires qui ne quittent pas les gens parce qu'elles rebondissent. Alors, vous l'avez démontré, elles ont duré pratiquement sur 30 ans. Hein. Venables est toujours en prison. Il y a de nouveau eu quelque chose en 2023, je crois, sur des affaires de photos, encore une fois. Et donc, c'est des choses qui continuent, qui résonnent énormément avec les Britanniques. J'étais à Londres il y a quelques semaines, et fait du hasard, quelqu'un m'a parlé de l'affaire James Bulger, que j'avais croisé à l'époque. Donc, c'est des choses qui restent dans l'esprit, de la même façon que l'affaire Grégory n'a pas quitté le devant de la scène en France. Et de toute façon, je pense qu'on ne saura jamais, pourquoi ça s'est passé comme ça à ce moment-là.
Voilà. Voilà.
Et donc, si on ne sait pas, ça alimente plein de choses, évidemment.
Et puis ça en ajoute à la douleur, hein, j'imagine, enfin, pour les familles. Alors, le procès, on va finir là-dessus. On a raconté le procès, mais comment vous l'avez vécu, vous, qu'est-ce que vous retenez ?
Alors, déjà, il faut comprendre que c'était pas simple de se retrouver à ce procès. J'ai pas pu y aller pendant toute la période de 3 semaines que ça a duré, parce qu'en fait, il fallait des autorisations spéciales. Ça avait été déplacé à Preston pour qu'il n'y ait pas justement d'échauffourées, que les gens, etc., etc. L'accès à la presse, c'était par poule. Moi, j'ai assisté à la dernière journée, ce qui était déjà la journée du verdict. Et ce dont je me souviens, parce que je me souviens pas grand-chose, pour être tout à fait honnête, c'est du visage. De la mère de James Bulger. Le visage de quelqu'un de complètement dévasté, absente. C'est comme si elle n'était pas là. Et ça, je m'en souviendrai toujours. C'est-à-dire que on avait l'impression qu'elle n'était pas là.
Elle était là dans sa souffrance.
Voilà, dans une souffrance absolument incommensurable. Quand vous êtes journaliste et que vous avez des deadlines, des choses, etc. Et je me souviens de cette image-là. Et c'est celle qui est restée avec moi, en fait.
Bien, écoutez, merci infiniment, Fabrice Rousselot, d'avoir puisé dans vos souvenirs. J'imagine que c'est pas ça.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat de James Bulger. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.